Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
Il est 8h et vous écoutez RMC. Excellente journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Que va-t-il dire ? Emmanuel Macron va prendre la parole à 13h à la télévision. Il sort du silence, mais il dit déjà devant des parlementaires que la foule dans la rue n'a pas de légitimité. Les actions continuent en attendant de nombreuses opérations de blocage. Ce matin, dans les Bouches-du-Rhône, c'est très compliqué de circuler dans la région de Marseille. RMC sur place. Et puis la réponse policière pointée du doigt. Encore 46 interpellations hier soir à Paris et des milliers d'opposants dans les grandes villes.
Et vous, qu'attendez-vous de l'interview d'Emmanuel Macron? Rendez-vous dans 10 minutes avec le directeur de la Fondation Jean Jaurès. Ce sera juste après ce journal. On en débattra tous ensemble. Je vous attends au 32-16 et la suite de votre journal, Quentin. Les syndicats qui mettent leur menace à exécution ce matin dans la région de Marseille.
Oui, ils avaient prévenu que les réquisitions dans les raffineries seraient considérées comme une déclaration de guerre. Eh bien, il y a réquisition depuis hier à Fos-sur-Mer, sans conséquence à la pompe pour le moment, puisqu'une station sur deux est toujours sous tension dans les Bouches-du-Rhône. C'est quasiment autant dans le Gard et le Vaucluse. Vincent Chevalier, vous êtes en direct de Fos-sur-Mer ce matin pour RMC. Et vous nous dites donc que c'est très compliqué de circuler ce matin à Marseille et dans la région avec plusieurs opérations de blocage.
Là où je me trouve, au port Saint-Louis-du-Rhône, les dockers se sont donné rendez-vous un peu avant 6h. Objectif, bloquer toutes les entrées et sorties du port, l'un des plus importants de France. Près de 200 personnes réunies autour d'un rond-point. Pas vraiment de blocage de la route, plutôt un barrage filtrant. Contrairement à un autre rond-point à quelques kilomètres de là, où les files de voitures s'allongent du côté de Marseille. C'est même une portion de l'autoroute 55 qui est fermée. Des palettes ont été brûlées sur la route. Autre rassemblement ce matin, info sur mer, du tractage devant l'usine ArcelorMittal et un nouveau rendez-vous au dépôt pétrolier, là où il y a eu des tensions hier entre manifestants et forces de l'ordre. Ils se mobilisent contre les réquisitions ordonnées par le gouvernement des travailleurs indispensables au fonctionnement du dépôt. Mobilisés hier, aujourd'hui, ce qui permet de réapprovisionner certaines stations dans les environs touchées par des pénuries.
Voilà, une station sur deux sous tension dans les Bouches-du-Rhône. C'était Vincent Chevalier en direct ce matin pour RMC. C'est donc à 13h, tout à l'heure, à la mi-journée, qu'Emmanuel Macron va sortir du silence à la télévision, sur BFM TV, sur TF1 et sur France 2. On n'a pas entendu le président depuis le salon de l'agriculture à ce sujet.
Nous avons aujourd'hui de l'inquiétude. Et c'est aussi ça qui s'exprime dans les manifestations sur les retraites.
Voilà, c'était fin février. Alors maintenant, il y a plus que de l'inquiétude, il y a aussi de la colère. Emmanuel Macron a dit hier soir devant des parlementaires que la foule dans la rue contre la réforme des retraites n'avait pas de légitimité. Sébastien Krebs du service politique à RMC, vous êtes en direct ce matin avec nous sur RMC. Est-ce qu'on a une idée de ce que dira tout à l'heure Emmanuel Macron ?
Alors, plusieurs enjeux. Le premier message, il l'a amorcé, vous le disiez hier soir, face aux parlementaires de la majorité, c'est que la loi est passée, que le 49-3 est légitime, il fait partie de nos institutions. Hier soir, le président défendait l'ordre républicain, donc pas de retrait, pas de référendum, pas de dissolution, pas de changement de gouvernement. Ces scénarios sont pour l'heure écartés. Mais alors comment trouver les mots pour apaiser? C'est toute la question alors que le mouvement se tend dans la rue. Il faut trouver un chemin, sinon c'est l'affrontement, craint un député de la majorité. Certains pointent le risque finalement d'un effet déceptif, d'une intervention sans effet, car le président semble vouloir temporiser, se donner quelques semaines pour dessiner son cap. Hier soir, il a tout de même cité trois priorités: la santé, l'école, l'écologie. Son entourage promet aussi de nouvelles méthodes pour gouverner. Il a demandé à ses ministres de retourner sur le terrain pour écouter les colères.
Et alors, il prend la parole à la télévision à 13h et pas à 20h, comme on pouvait s'y attendre. C'est un choix qui est à minima surprenant.
Oui, pour tout vous dire, ça a même surpris les chaînes de télévision qui lui avaient proposé le traditionnel 20h. Alors, c'est le choix des territoires, défend l'Élysée, qui cite même les téléspectateurs qui rentrent chez eux pour la pause déjeuner. Bon, la réalité de l'audience des 13h, c'est que les retraités y sont surreprésentés, moyenne d'âge au-delà des 60 ans, public donc qui n'est pas concerné par la réforme des retraites. Ça peut surprendre, ça a surpris, y compris au sein de la majorité, à moins d'y voir une manière de parler d'abord à son électorat pour le rassurer sur la situation et lui montrer que le pays est tenu.
Oui, parce qu'il y avait encore des tensions hier soir dans les grandes villes, à Grenoble et Nantes notamment, 46 interpellations à Paris. Des CRS encore filmés dans la capitale en train de charger violemment des groupes de manifestants apparemment calmes. La réponse policière d'ailleurs est pointée du doigt. La police des polices, l'IGPN, a ouvert une enquête à Paris sur une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Romain Houck pour RMC, dans laquelle on voit un homme se faire violemment frapper par un policier.
Oui, c'est une vidéo d'une quinzaine de secondes, vidéo filmée lundi soir par un étudiant. La scène se déroule près d'un kiosque à journaux dans le quartier de Bastille à Paris. On y voit un policier de la BRAVEM, la brigade motorisée d'intervention, porter un coup violent à un manifestant qui tombe immédiatement au sol, KO. Pourtant, sur les vidéos dont on dispose, il ne semble être ni menaçant ni agressif. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, s'est exprimé hier à ce sujet.
Quand on voit cette séquence, oui, le geste paraît inadapté. Mais moi, j'ai besoin de comprendre quelle est la séquence, ce qu'il s'est passé. Vous ne voyez que la fin de la séquence.
Mais ce n'est pas la seule vidéo qui pointe du doigt le comportement des forces de l'ordre ces derniers jours. Le préfet de police assure consulter toutes les images, mais pour l'avocat Harry Halimi, il y a bel et bien une multiplication des violences policières.
Je suis beaucoup plus qu'inquiet parce que j'ai l'impression d'une tragédie annoncée. J'ai vraiment le sentiment que c'est ce qui est recherché aujourd'hui. Un drame fatal, une issue fatale pour sortir d'une crise politique dans laquelle bien le président de la République n'arrive plus à sortir.
L'avocat qui assure par ailleurs que des plaintes ont d'ores et déjà été déposées contre les autorités.
Et ce matin, tous les regards sont braqués sur la ville de Rennes. Pourquoi ? Parce que des pêcheurs venus de toute la France manifesteront à 10h pour alerter sur leurs difficultés. Et il y a la crainte que tout devienne un prétexte à la violence avec les manifestations tous les soirs en ce moment à Rennes. Le souvenir aussi de l'incendie du Parlement de Bretagne, c'était en 1994. Mo Baker-Granier, déjà sur place pour RMC, nous dit que carrément des commerçants se barricadent.
Des magasins entièrement barricadés, certains pour se protéger, d'autres parce qu'ils ont déjà vu leurs vitres voler en éclats. Daniel condamne ces actes.
Je dis que la violence n'est pas légitime. Il faut éliminer ceux qui sont vraiment des casseurs.
Annick Renez et anti-réforme se montre moins sévère avec les dégradations.
Mais je cautionne pas du tout, mais je peux comprendre quelquefois quand on est en colère.
Des manifestations chaque soir, chaque matin, de plus en plus sauvages, inquiètent les commerçants de l'hypercentre.
De l'épuisement, de la lassitude. On n'en peut plus.
Elisabeth, gérante d'une boutique de lingerie, est encore choquée.
On a vu des groupes cassés s'acharner sur les vitrines du Balthazar en face. C'est vraiment insupportable, quoi. Le matin, moi, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on va trouver le magasin? Bon, c'est quand même très, très angoissant.
Les forces de l'ordre aussi commencent à s'affaiblir. À vous, David Leveau, d'unité SGP Police à Rennes.
Ce sont des hommes et des femmes, des êtres humains, derrière les uniformes, et la fatigue se fait sentir. C'est ultra difficile.
Ce matin, les policiers vont être de nouveau sur le pont pour encadrer la manifestation des pêcheurs avec la crainte que des éléments perturbateurs les rejoignent.
Il est 8h07 sur RMC. L'ONU alerte ce matin sur le risque imminent d'une crise mondiale de l'eau à cause du changement climatique, constatant que les pénuries tendent à se généraliser. On est concerné en France, où un rapport parlementaire préconise d'augmenter les primes d'assurance pour mieux couvrir les dégâts causés aux maisons par les sécheresses, notamment sur les sols argileux qui se tassent. Ça fait des fissures. Il y a 19 millions de maisons en France. 10 millions sont concernés justement par ces fissures. Cette question aussi ce matin, voulez-vous participer aux Jeux Olympiques l'an prochain? Il est encore temps, oui, on peut s'inscrire à partir de ce matin pour devenir bénévole, pas athlète, bien bénévole. 45 000 personnes sont recherchées, Julien Richard.
Oui, 45 000 volontaires au cœur de l'événement. On dit d'eux qu'ils sont le visage des Jeux, un repère avec leur uniforme distinctif. Leur mission, accueillir, orienter les spectateurs, les athlètes, les journalistes, mais pas seulement. Parfois au plus près de l'action, comme installer les starting blocks avant la finale du 100 mètres en athlétisme, par exemple. Trois conditions pour postuler, avoir au moins 18 ans au 1er janvier 2024, parler français ou anglais, et être disponible au moins 10 jours sur la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce matin sur le site de Paris 2024 et jusqu'au 3 mai, avec un questionnaire à remplir qui permet une orientation sur la mission qui correspond le mieux au candidat. Comme sur chaque édition des Jeux Olympiques, il s'agit d'une mission de volontaire, donc non rémunérée, pas d'hébergement non plus. Seuls les repas, la tenue et les transports en commun sont pris en charge.
Voilà, seuls les transports en commun et la tenue prises en charge.
Oui, donc il faut quand même avoir des sous pour se loger. Moi, c'est ce à quoi je réfléchis quand même depuis tout à l'heure, parce qu'on n'a pas arrêté de faire des sujets sur le prix des locations pendant les JO. Effectivement, ceux qui seront volontaires auront peut-être du mal à se loger quand même. Mais vous avez de la place chez vous, Charles. Je vois votre petit sourire.
J'ai un clic-clac.
Oh, écoutez, il a un canapé, il veut bien le prêter. Il est 8h09, c'était le journal de Quentin Vinet.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il faut apaiser, il faut écouter la colère. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Mais dans le même temps, il nous dit que la foule n'a pas de légitimité. Alors, quel jeu d'équilibriste pour le président de la République. Il est interviewé tout à l'heure à 13h. Qu'en attendez-vous? Je vous attends au 32-16. Et dans ce studio, il y aura l'œil avisé du directeur de la Fondation Jean Jaurès. A tout de suite dans Apolline Matin.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h13 et vous êtes bien sur RMC.
Le parti pris.
Le parti pris, c'est le vôtre, Gilles Finkelstein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la Fondation Jean Jaurès, un lieu de réflexion, de dialogue sur nos institutions, plutôt marqué gauche sociale. Et il y a cette intervention d'Emmanuel Macron au journal télévisé de 13h, qui sera diffusé sur TF1, France 2, BFM TV. Le fait de s'exprimer, d'avoir choisi finalement de parler, et puis dans ce contexte-là, est-ce que c'est une surprise à vos yeux ?
C'est pas une surprise, c'est deux surprises.
Ah.
La première surprise, c'est qu'ils choisissent les journaux de 13h. De fait, ils privilégient une audience moins nombreuse, mais plus âgée, et donc a priori plus favorable. Mais la deuxième surprise, c'est qu'ils choisissent de parler aujourd'hui, c'est-à-dire de parler vite, alors qu'on sait qu'Emmanuel Macron privilégie plutôt de prendre son temps. On sait aussi que le Conseil constitutionnel n'a pas encore rendu sa décision. Si on met ensemble ces deux surprises ensemble, je crois que ça veut simplement dire qu'il pense qu'il ne peut pas y avoir de relance forte. Alors il faut au moins qu'il y ait une présence rapide.
Une présence rapide. Alors en effet, que vous le disiez, il y a encore un processus qui est en cours, qui est celui du Conseil constitutionnel, avec un Laurent Fabius qui du coup va avoir un rôle très important. Je rappelle que c'est le président du Conseil constitutionnel et que tout d'un coup, il pourrait, alors pas seul, avec les autres sages entre guillemets du Conseil constitutionnel, retoquer tout ou partie de cette loi finalement.
Une partie, c'est très probable. Parce qu'on sait qu'il y a des dispositions qui figurent dans ce projet de loi qui n'y ont sans doute pas leur place. En totalité, là, ça serait un véritable événement. Une des questions que l'on a peu entendues pour l'instant est de savoir dans quel délai le Conseil constitutionnel va rendre sa décision. Normalement, le Conseil constitutionnel a un mois. La Première ministre, quand elle a saisi le Conseil constitutionnel, a dit que pour un examen dans les meilleurs délais, il y a la possibilité de demander un examen en urgence. Ça voudrait dire, après l'urgence au Parlement, une décision dans les 8 jours.
Et ça les arrangerait, j'imagine, pour qu'on puisse passer à autre chose. Emmanuel Macron, qui, alors qu'il s'exprimera tout à l'heure, a commencé déjà à s'exprimer par la voix de ses conseillers qui ont fait dire, notamment, que, à ses yeux, je cite, « la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui lui s'exprime à travers ses élus ». C'était nécessaire, cette phrase ?
Je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Je ne suis pas sûr qu'elle soit d'une grande habileté au moment où on sent que le conflit est en train de muter, où on passe d'une revendication de retrait sur la réforme à une demande de respect. Et c'est d'autant moins habile que ce qui est reproché au président et au gouvernement depuis le début, c'est de ne pas avoir réussi à opposer à la légitimité, non pas de la rue, mais à la légitimité de l'opinion, une légitimité parlementaire.
Du côté de Nuno qui nous appelle de Reims. Nuno, vous êtes gérant de société. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'intervention d'Emmanuel Macron tout à l'heure ?
Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour Apolline, Nuno. Je suis très content de passer à l'émission. J'appelle souvent, mais ça c'est rare, donc comme j'ai pas beaucoup de temps, moi j'attends qu'il tienne ce pour quoi il a été élu. Et cette réforme est complètement nécessaire. Maintenant, effectivement, qu'en communication, il soit maladroit, la rue n'a pas la légitimité, c'est les gens de la rue qui cassent, qui n'ont pas la légitimité. Oui. Ceux qui font grève, ils l'ont, puisque c'est un droit. En revanche, la démocratie, c'est pas de bloquer les ronds-points, comme ça m'est arrivé encore avant-hier, pour pas que j'aille travailler, moi. Parce que je suis arrivé 45 minutes en retard. Mais moi, ma démocratie, c'est de pouvoir aller travailler librement sans qu'on me bloque, vous voyez. En revanche, cette réforme, tout le monde dit qu'elle est nécessaire, mais personne ne propose rien, et veulent faire des réformettes. Il ne faut pas toucher à l'âge légal de la retraite. Il ne faut pas toucher au départ à 64 au lieu de 62. Mais tout le monde veut partir avec une retraite pleine à 1200 balles. À un moment donné, il y a deux solutions. Moi, je veux que mes enfants aient une retraite. Bon, pour qu'ils aient une retraite, je suis prêt à travailler 2-3 ans de plus. Je n'aime pas un métier qui est difficile, heureusement. Mon papa était maçon, c'est complètement différent. Il a 950 euros de retraite par mois. Et la réforme des retraites, pour lui, elle est très avantageuse. Mais heureusement, quand les régimes spéciaux à côté de mes beaux-parents, qui étaient instituteurs, ont 4 fois la retraite de mon père. Vous rendez compte ?
Alors, votre exemple, il est passionnant, Nuno, entre votre témoignage, celui de votre père, celui de vos beaux-parents, et effectivement des situations qui sont vécues comme une forme, en tout cas d'inégalité, peut-être même d'injustice. Nuno, c'est intéressant aussi d'entendre votre point de vue. Je trouve que ça change, c'est-à-dire que ça fait quand même quelques temps qu'on avait beaucoup d'interventions plutôt du côté des manifestants ou des grévistes. Ce matin, on sent qu'il y en a quelques-uns, comme vous Nuno, qui disent « bon allez, ça suffit, maintenant il faut passer à autre chose ». Je me tourne à nouveau vers vous, Gilles Finkenstein, quand vous entendez effectivement le point de vue de Nuno ou d'autres, certains se disent « bon, il y a eu le temps des manifestations. Aujourd'hui, il y a le temps un peu plus des casseurs. Dans un sens, presque, on pourrait se dire qu'au fond, quand Emmanuel Macron dit la foule n'est pas légitime, il a presque intérêt à ce que cette foule-là, elle soit plutôt identifiée à ceux qui cassent, plutôt qu'à ceux qui battaient le pavé de manière très calme et raisonnable. Raisonnable, pour reprendre le mot de Laurent Berger, puisque depuis 2 mois, il y a eu des manifs sans aucune casse.
Oui, il y a eu des manifs sans aucune casse. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de manifestations qui se passaient aussi bien. C'est exactement cela l'enjeu pour lui. On voit que le président veut apparaître comme le président de la réforme et comme le président de l'ordre. L'ordre, c'est ce qu'on vient d'évoquer. La réforme, c'est ce que vient de dire Nuno. Et c'est précisément la difficulté devant laquelle se trouve Emmanuel Macron aujourd'hui. Si on compare la situation qui est la sienne à celle du mouvement des Gilets jaunes, il est d'une certaine manière dans une situation qui est plus compliquée parce qu'il a le front de l'opinion comme il l'avait en 2018, mais il a en plus un front syndical alors que la CFDT était en 2018 un partenaire dans la précédente réforme des retraites et qu'il a au surplus un front parlementaire puisque là où il disposait d'une majorité absolue, il n'a plus aujourd'hui qu'une majorité relative et on a vu les difficultés qu'il avait.
Il n'y a donc plus grand monde pour le soutenir. Gilles Finkenstein, merci à vous en tout cas d'être venu dans ce studio. Vous êtes le directeur de la Fondation Jean Jaurès qui est donc ce lieu de réflexion et de dialogue sur nos institutions. Merci aussi à Nino de son témoignage. Il est 8h19, tout autre chose, une star américaine.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
C'est la star américaine qui arrive.
C'est Arnaud de Manche qui est avec nous.
Bonjour Apolline, bonjour les amis, ça va ?
Bonjour.
Bonjour à tous nos auditeurs, nous sommes le mercredi 22 mars et Elisabeth Borne est toujours Première Ministre. Je vous rappelle que dès qu'il se passe quelque chose, on déclenche sur RMC l'alerte Borne. Quand vous entendez ce son, vous envoyez Borne au 732-16 et vous pourrez gagner une cagoule et un caillou à envoyer sur la permanence du député de votre choix. Non mais non, qu'est-ce qui m'a écrit ça ? Qui m'a remplacé mes feuilles dans la régie là, avec vos revendications d'intermittent ? On dit non à la violence. Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron va s'exprimer à la télé. Évidemment, il a choisi le journal de 13h, c'est-à-dire le truc qui est le moins regardé, avec les intervieweurs les plus offensifs du PAF. Les deux pitbulls, Julien Bugier et Marie-Sophie Lacaro, ce sont quand même des journalistes qui, chaque jour, lancent des sujets comme « ça bourgeonne déjà dans les jardins, dans le petit village de Tougrasse-les-Deux-Glavio, les jonquilles annoncent le printemps ». Ça va être aussi violent que Gilles Boulot avec Elisabeth Borne l'autre soir. Vous l'avez vu ? Il était déchaîné. Hein. À un moment, j'ai cru qu'il allait lui faire une manucure. Enfin, c'est autre chose que vos interviews, Apolline. Ce qui est formidable, c'est qu'Emmanuel Macron a déjà prévenu, il dira rien d'intéressant. Voilà, il va pas virer Elisabeth Borne, il va pas démissionner, il va pas annoncer ses fiançailles avec Kylian Mbappé.
Oh mince.
Rien. Alors, du coup, je vous propose un petit jeu, un bingo Macron. À chaque fois que Macron dira une des expressions suivantes, vous buvez un shot. Alors, à votre avis, est-ce qu'il va dire « Mais il y a eu un processus démocratique, le Sénat a voté ?»
Un shot, bingo.
Un shot. Pardon de vous le dire, plusieurs shots. Je suis attaché à notre modèle social. Il en va de l'avenir de nos enfants.
Évidemment.
Je vous emmerde. Les Français m'ont élu.
Alors, je crois qu'il ne va pas le dire.
Non. Un demi-point, moi, je dis. Un demi-point. Celles et ceux qui contestent pouvaient voter la motion de censure.
Ah, bah oui, pourrait.
Il va y aller.
Oh, bah oui. Ouais.
On a fait preuve de pédagogie, mais vous êtes trop cons.
Oui.
Un demi. Voilà, vous n'avez pas besoin de regarder l'interview. On vient de vous la résumer. Emmanuel Macron, de toute façon, est prisonnier d'un paradoxe. À la fois, il faut qu'il s'exprime et en même temps, faut qu'il évite de dire des trucs. S'il dit quoi que ce soit, ça va être pire. S'il dit « cette réforme est allée au bout de son cheminement démocratique ».
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est.
Le pauvre.
Arnaud, les épreuves du bac ont commencé pour les lycéens et les lycéennes de France.
Bah oui, courage aux bacheliers quand même. Moi j'ai eu 5 en maths au bac, ce qui prouve qu'on peut survivre. Après, c'est vrai, mais j'ai l'impression...
Manu est dépité.
Un peu de jugement. Désespéré. Mais j'ai eu 11 en économie, Manu. Après, j'ai l'impression que les problèmes sont encore plus durs aujourd'hui. On m'en a envoyé un, regardez. Ça dit...
si un train ne démarre pas à 10h25 pour cause de grève à Marseille et qu'un autre ne démarre pas à Paris à 10h45, à quelle heure la police matraque son premier cheminot à Lyon? C'est pas évident, hein. Non, mais c'est difficile. Alors, avec ces grèves et tout ça, la capitale est sans dessus-dessous, mais les touristes ne semblent pas plus impactés que ça. Il y a 20 minutes qui a même publié un article qui est intitulé, je vous jure que c'est vrai, « Malgré les poubelles et les manifs, les touristes saluent le charme français de la rébellion ». J'adore. C'est-à-dire que pour nous, c'est la révolution, le pays est bloqué, on barricade des commerces.
C'est so charming.
Exactement, il y a 10 000 tonnes de poubelles dans Paris et eux, ils sont là « Oh my God, this is a French revolution !» C'est tellement Paris, la croissant, la Moulin Rouge, la 49-3. Smell the poubelle. Darling, this is the perfume of the French rebellion. Look, the Folie Bergère, the CGT, c'est le lutte finale. Nous, on voit passer des black blocs pour retourner l'Assemblée, mais eux, c'est la parade Disney. Ils sont sur les quais du RER, les trains sont annulés, tout le monde fait la gueule et ils sont tous sourire. Oh, we're experiencing the famous French grève. It's authentic, c'est mon premier. Dans la prochaine saison d'Emilie in Paris, Emilie, elle va adhérer à la CGT, lancer des pavés à la gueule des CRS. Macron, démission. Je suis le vrai Parisienne maintenant. Alors, à propos de Paris, vous avez vu, aujourd'hui, il y a John Wick 4 qui sort et s'est tourné à Paris avec mon ami, mon poteau, mon fraté, mon gars sûr, Keanu Reeves, c'est un vieux copain d'école de théâtre, on est parti en vacances ensemble plusieurs fois, on s'aime bien. Le film est énorme, c'est une dinguerie, et ils ont été malins. Toutes les scènes de voiture s'est tournées de nuit. Oui, parce que la course-poursuite porte-maillot à 9h du matin dans les bouchons, c'est moins impressionnant.
Ça aurait été moins impressionnant.
La folle poursuite à 4 km/h ça perd de son charme. Il tue tous les méchants, il tue toutes les ordures de Paris. Il est plus efficace pour nettoyer cette ville qu'Anne Hidalgo. Hein. Je pense qu'il est prêt pour les municipales, voire la présidence. Évidemment, ça demande de venir en France régulièrement, mais il est prêt pour ça. Je lui ai demandé personnellement, en exclusivité
pour RMC. La voilà, la star américaine.
Hi. Vous avez tourné ce film en France, vous aviez déjà voyagé en France avant?
Oui, je suis déjà venu avant et j'ai déjà tourné ici. C'est très sympa d'y revenir.
Et ça vous a plu?
Oui, c'est cool. C'est toujours un rêve d'y revenir. J'ai eu pas mal de super expériences à Paris. Paris, c'est une ville formidable, avec une énergie, une architecture, une cuisine. C'est assez extraordinaire, je trouve.
Et là, vous vous dites, c'est marrant, mais Keanu Reeves a la voix de Romain Cluzel du service politique. Et oui, et c'est lui qui l'a doublé. Ce qui est peut-être d'ailleurs la personne qui ressemble le moins à Keanu Reeves de toute la rédaction. Mais ça, voilà, ça le fait quand même. Les Américains, ils sont contents. On embrasse Romain. Les Américains, ils sont comme des dingues, quoi qu'on fasse, nous, les Français. Vous avez vu, Apolline, vous avez Sandrine Rousseau à 8h40. En première partie, je vous ramène Keanu Reeves comme lancement.
Qui fait donc la première partie de Sandrine Rousseau.
Eh oui. Ouais. Demain, je fais jouer YouTube en première partie de votre interview de Laurent Berger. On a la classe sur RMC ou on l'a pas?
Tellement. Allez, à demain. Tous les matins, 7h20 et 8h20 sur RMC. Vous l'aurez compris, dans un instant, mon invité, c'est Sandrine Rousseau. À tout de suite.